Vous êtes sur France Inter, il est 18h. Le journal Luc Chemla.
Bonsoir, bonsoir à tous. Une stigmatisation des élèves pour certains, une bonne mesure pour d'autres. Les réactions sont divisées, notamment chez les syndicats après les annonces du ministère de l'Éducation nationale sur le protocole sanitaire à la rentrée dans le secondaire. Analyse de Laurent Kramer dès le début de ce journal. Il était très attendu. Emmanuel Macron ne s'excuse pas, mais reconnaît une dette de la France envers la Polynésie au sujet des essais nucléaires. Un membre d'une association le dit haut et fort, il est satisfait. Peine confirmée pour Théodorin Obiang dans l'affaire des biens mal acquis. Le vice-président de la Guinée ira bien en prison. Et puis c'est déjà le retour à la maison pour les footballeurs français au JO de Tokyo. Écrasés aujourd'hui et éliminés après un tournoi totalement raté.
France Inter.
Alors on est au cœur de l'été, mais le ministre de l'Éducation nationale annonce déjà la couleur pour la rentrée prochaine. Jean-Michel Blanquer a donné ce matin les grandes lignes du protocole sanitaire. Si un cas de Covid est détecté dans une classe de collège ou lycée, retour à la maison immédiat pour les non vaccinés. Ils suivront les cours à distance, seuls les autres pourront rester. Bonsoir Laurent Kramer.
Bonsoir.
Alors cette annonce divise les syndicats d'enseignants, mais surtout interroge.
Oui, différencier les élèves selon leur statut vaccinal au collège et au lycée ne sera pas réellement appliqué. Estime le SNES, effet d'annonce qui pose une nouvelle fois la question de l'organisation du temps de classe avec des élèves en distanciel pour une seule semaine et qui n'auront pas toujours la possibilité de se connecter à distance avec des outils informatiques souvent déclassés. Des enfants éloignés de l'école, faute de consentement des parents, souligne de son côté à la FSU Benoît Test.
Nous on pense que c'est une mesure qui introduit de la coercition, de la menace, une forme de sanction, bien qu'on s'en défende, hein, mais je pense que être évincé d'une classe sous prétexte qu'on n'est pas vacciné, c'est pas forcément de son fait qu'on n'est pas vacciné. Hein. Aujourd'hui, on a 20% des 12-16 ans vaccinés. Et donc, le sujet va se poser très largement. On va avoir des moitiés de classe à distance, surtout dans une situation où la vaccination des adolescents a commencé depuis très peu de temps. Et donc, on ne sera pas prêt début septembre.
Cette vaccination proposée à l'école à la rentrée sera une sorte de séance de rattrapage de l'été, insiste le gouvernement. Inciter des élèves à se faire vacciner et appliquer cette différenciation est bel et bien la seule solution, estime de son côté Stéphane Crochet du syndicat d'enseignants SE-UNSA.
La règle qui a été édictée, c'est finalement celle qui vaut pour la population en général et que donc cette mesure était la seule nécessaire et surtout ce que l'on peut espérer tous, c'est que la couverture vaccinale soit suffisamment importante pour qu'on ait peu de cas dans nos classes, au collège et au lycée.
Dernier point technique, cette fois soulevé par les syndicats d'enseignants, les élèves qui arriveront en 6e pour la rentrée n'auront pas forcément atteint leur 12e année pour être autorisés à se faire vacciner.
Merci beaucoup Laurent Kramer et le ministre de l'éducation va justement augmenter le taux de vaccination chez les élèves dans le secondaire. 6 à 7 000 centres seront déployés dès septembre à l'intérieur ou à côté des établissements scolaires. Avant de partir en vacances, les ministres se sont retrouvés à l'Élysée pour un dernier conseil. Gabriel Attal a ensuite pris la parole et l'a annoncé. L'extension du pass sanitaire entrera en vigueur le 9 août, dans 10 jours. Donc, attention, il faut quand même avant que la loi soit validée par le Conseil constitutionnel. Le porte-parole du gouvernement promet un temps d'adaptation, de tolérance, de pédagogie et du temps justement, on n'en a plus vu la situation en Guadeloupe, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy. L'état d'urgence sera déclaré ce soir à minuit. Des mesures restrictives pourront ensuite être prises. À Saint-Martin par exemple, le taux d'incidence dépasse les 1704 Covid pour 100 000 habitants. Enquête ouverte pour menace de mort dans les Landes après la découverte de 3 guillotines. Elles sont factices, mais sont placardées dessus les noms de 300 élus de droite et de gauche favorables au pass sanitaire. L'une d'entre elles a notamment été déposée le week-end dernier devant une maison de santé à Saint-Madet. Après une journée de traque, 2 personnes interpellées dans l'affaire du braquage de la bijouterie Chaumet à Paris. Les suspects ont été arrêtés avec l'essentiel du butin, entre 2 et 3 millions d'euros. Ils sont entrés armés dans la boutique hier après-midi, près des Champs-Élysées, ont volé des bijoux, des pierres précieuses et puis sont repartis en trottinette électrique. Les associations attendaient des excuses officielles. Elles n'en ont finalement pas eu, mais Emmanuel Macron le reconnaît. La France a une dette envers la Polynésie française. J'assume et je veux la vérité, la transparence avec vous. À Papété, le président s'est exprimé ce matin au sujet des essais cliniques réalisés de 1966 à 1996 dans le Pacifique. Une partie de la population dit souffrir depuis de maladies comme des cancers. Le discours du chef de l'État était donc très attendu, notamment par les membres de Ataou Touruyana, une association en région parisienne d'aide aux victimes. L'un de ses membres, TVU, Teta Uapu, a perdu son père d'un cancer lié justement à ses essais et il a apprécié les mots d'Emmanuel Macron.
Je pars du principe que dès lors où il a été honnête, nous pour les Tunisiens, je pense qu'on devrait respecter. Je pense à toutes les personnes qui sont parties au ciel à cause de cette maladie, des essais nucléaires. Mais à mon humble avis, c'est le seul président qui est venu là et qui a dit toute la vérité. Puisque c'est ce qui a toujours été le contenu, le problème de la Polynésie, ce sont toutes ces personnes qui ont été contaminées. Et à partir de là, le Polynésien doit respecter. Pour lui, c'est pas aussi évident de dire la vérité devant tout le monde. Et en plus de ça, il donne des gâches. Si à partir de là, il y en a encore d'autres qui sont pas trop d'accord, là, je comprendrai plus rien. En tout cas, il est venu, il a parlé. Et moi, je dis respect.
Mais TVU, Tetaou Apu, membre de l'association Atahou Touruyana. Emmanuel Macron réclame d'ailleurs une meilleure indemnisation des victimes. Théodorin Obiang ira bien en prison et payera 30 millions d'euros d'amende. La Cour de cassation a confirmé aujourd'hui la peine du vice-président de la Guinée équatoriale, reconnu coupable l'année dernière de s'être constitué un patrimoine frauduleux en France. Il a notamment détourné des fonds au Marwaman.
La Guinée équatoriale est un petit pays d'Afrique centrale, riche en pétrole, gouverné d'une main de fer depuis plus de 40 ans par Théodore Obiang. C'est son fils Théodorin Obiang, 53 ans, vice-président de la Guinée équatoriale, que la justice accuse d'avoir détourné plus de 150 millions d'euros en France sur un total de 500 millions blanchis à travers le monde. Pour restituer ces biens mal acquis, la France propose un cadre juridique qui met l'AFD, l'Agence française de développement, au cœur du dispositif après un accord entre les deux pays. L'idée est d'éviter que cet argent soit de nouveau détourné par le régime équato-guinéen. L'AFD sera chargée de mettre en œuvre une série de projets adaptés au plus près des populations dans les domaines de l'éducation, de l'accès à l'eau ou de la santé. Un exemple, selon l'ONG Transparency International, la Guinée équatoriale pourrait vacciner 3 fois sa population contre le coronavirus avec les 150 millions d'euros détournés par Théodorin Obiang. Dakar, Omar Waman, France Inter.
Monsanto doit lui aussi passer à la caisse, amende de 400 000 euros. L'agrochimiste américain est sanctionné par la CNIL, le gendarme français des données personnelles, pour avoir fiché illégalement des personnalités publiques, des journalistes, des militants. Son objectif, influencer le débat public sur l'interdiction du glyphosate. Une claque pour finir, et c'est déjà le retour à la maison. L'équipe de France de foot est éliminée des JO de Tokyo, battue 4-0 aujourd'hui par le Japon pour son dernier match de poule. Ils jouaient pourtant leur survie, hein, mais sont totalement passés à côté, comme en fait toute leur compétition, Cédric Guillou.
L'équipe de France de football n'aura jamais fait le poids durant ce tournoi olympique. Alors oui, il y a eu cette victoire miraculeuse contre l'Afrique du Sud lors de la deuxième journée qui a maintenu l'espoir d'une qualification. Mais cette équipe de France-là n'avait absolument pas le niveau pour espérer sortir des poules. La France a perdu 2 de ses 3 matchs, a encaissé 11 buts en 3 rencontres. Mais voir les Bleus sombrer lors de ces JO n'est pas forcément étonnant. Bien avant le début de la compétition, les clubs français n'avaient pas joué le jeu en bloquant la sélection de plusieurs joueurs. Sylvain Ripoll, le sélectionneur, a dû faire avec les moyens du bord. Il a dû compenser les refus jusqu'au tout dernier moment avant de partir au Japon. Au final, l'aventure des Bleus a logiquement tourné au fiasco, alors que la France s'était qualifiée pour un tournoi olympique de football pour la première fois depuis 1996.
Cédric Guillou pour France Inter. Et déception également cet après-midi pour les basketteuses françaises en 3 contre 3. Elles ratent d'un rien la médaille de bronze, battue de 2 points par la Chine dans la petite finale.